Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
Vous êtes photographe et cinéaste animalier. Le public vous a découvert grâce à vos images souvent époustouflantes. Vous êtes d'ailleurs le papa de La Panthère des Neiges, sorti en 2021, en co-réalisation avec Marie Amiguet et avec à vos côtés un certain Sylvain Tesson. Film qui vous a permis d'obtenir le César du meilleur documentaire. Vous signez aujourd'hui la réalisation du film Le Chant des Forêts. C'est une invitation à découvrir les forêts des Vosges, un peu celles de Norvège, celles qui vous ont tant appris, grâce à votre père d'ailleurs, Michel, naturaliste. Ce film vous permet avant tout de laisser une trace et d'autre part de transmettre à votre tour, à votre fils qui s'appelle Simon. Nous découvrons donc trois regards, trois générations, unies autour d'une même fascination pour la vie sauvage. Le spectateur est plongé au cœur de ce lieu habité par toutes sortes d'animaux. Donc il y a des cerfs, des biches, des oiseaux rares comme les piques noires, des renards, des lynx aussi. Ce film raconte la nature, mais avant tout, il vous raconte vous et votre famille. Je crois que c'est la première fois que vous nous tendez autant la main vers ce qui vous touche le plus et vers la personne que vous êtes au fond de vous-même et les personnes que représente cette famille.
En tout cas, oui, c'est là, je m'ouvre un petit peu, c'est vrai. Pourtant, on est une famille assez pudique, mais j'avais cette envie de partage, en tout cas. J'ai bien conscience du privilège que j'ai eu d'avoir grandi dans une famille comme celle-ci, avec la forêt pas très loin, et de voir comment est-ce qu'on se comporte en forêt, comment est-ce que, si on est attentif, on se tait, on s'efface, il y a tout un nouveau monde qui apparaît. Et j'avais vraiment cette envie de partager ça, parce que, comme vous l'avez dit, il y a ces parenthèses un peu enchantées d'aller voir des espaces encore plus vierges, plus grands, l'Arctique, le Tibet. Mais là, les Vosges, enfin, c'est là où j'habite en permanence, c'est là où j'ai tout appris, c'est encore plus fort, quoi. Et puis, j'y ajoute une dimension un peu plus personnelle. En effet, il y a cette transmission entre trois générations.
Il y a un moment qui est très fort, d'ailleurs, dans le film, où vous êtes en Norvège, votre fils se retrouve avec votre père, et il y a beaucoup de neige, et évidemment, il n'arrête pas de tomber, et votre père lui confie « Emprunte mes traces ».
Et après, pas dans finalement, mes pas. Ouais, ouais,
voilà, et à la fin, il lui dit « Non, papy, mais toi, maintenant, passe dans mes pas à moi ouais. ». C'était important pour vous, justement, effectivement, de marquer les esprits sur cette union incroyable qui existe entre vous.
Je pense parce que j'en ai tellement, c'est un héritage qui est tellement précieux après moi pour mon chemin et je tente de faire la même chose auprès de Simon. C'est ce qui est le plus fort et puis il termine cette phrase avec on est dans ce qui s'en va parce que je le fais plus ou moins un petit peu disparaître à la fin du film. C'est des évocations, mais il y a un message qui est assez lumineux et comme vous l'avez dit avec le grand tétra qui disparaît, tout est éternel renouvellement. On est, on vit, on meurt, tout ça pour le grand cycle du vivant. Et donc ça, moi je trouve que c'est important parce que Simon, il sera peut-être pas un acharné comme moi parce qu'on est des fous furieux, mon père et moi. Mon père a passé plus de 800 nuits sous un sapin caché pour seulement observer un oiseau. Enfin, on est possédé par cette passion. Mais par contre, Simon, lui, il avait cette innocence, cette fraîcheur du regard. Il accumule ce savoir, cette empathie envers tous les êtres vivants qui l'entourent. Et après, il fera son propre chemin. Mon souhait, c'est pas qu'il suive exactement mes traces, mais qu'il ait comme un héritage de ces valeurs qui nous paraissent, enfin, moi qui me paraît importante, cette capacité à toujours s'émerveiller et d'être attentif à ce qui nous entoure, en fait. On est quand même dans un monde où on est quand même un peu fracassé, on est une espèce qui domine toutes les autres, on est dans un monde de performance. Et ce film, c'est une proposition un peu de ralentir, de se nourrir de cette beauté du vivant, et puis indirectement, on va en prendre soin, c'est clair et net, ça peut paraître très naïf, mais déjà ça nous fait un bien fou, mais à tout le monde, hein, sans qu'on s'en rende compte, c'est de manière inconsciente. J'adore quand mon père il dit à Simon, tu sais que les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux. Et on sait très bien que le chant, une forêt vivante, une forêt qui chante, quand les oiseaux sont là, la croissance des arbres est plus grande, les arbres grandissent plus vite. Donc il y a tout un système de vibrations, de choses qui nous est complètement inconnu et qui nous font du bien. Donc il y a ce film, moi j'espère qu'il a une mission un peu pas thérapeutique, ce serait prétentieux, mais en tout cas qui l'apaise et qui nous réconcilie avec les autres, les non-humains.
Le prédateur que nous sommes, effectivement, pose des armes dans ce film. C'est ça qui est très fort,
en fait,
d'ailleurs.
Ça,
il n'y a aucune arme. La seule arme, finalement, qui reste, ce sont nos cinq sens. Vous les mettez, d'ailleurs, à rude épreuve, hein, parce qu'on entend le bruit des oiseaux, le bruit de la forêt, même le bruit des arbres, l'écorce, c'est assez fou. On entend presque l'humus pousser. Est-ce que c'est pas ça, la force de votre travail, Vincent Munier, depuis vos débuts, c'est c'est-à-dire de vous effacer, parce que ça nécessite une humilité colossale que celle d'observer le monde sauvage.
Oui, en tout cas, c'est ça. Sur le terrain, il se passe tellement de choses difficilement descriptibles. Les mots ne sont pas assez forts, en fait, je trouve. Et c'est la magie du cinéma. cinéma. C'est vrai que je suis un homme d'image, j'ai commencé avec la photographie, maintenant le cinéma, mais c'est magique, parce que les gens sont aussi enveloppés. Et quand on rentre dans une forêt, on se sent aussi enveloppé. On y pénètre, c'est pas comme le Tibet où on domine et on voit tout, on se met derrière un rocher. On a un sentiment, c'est un peu comme quand on rentre dans une cathédrale, quoi. On est un peu ému, enfin pas ému, mais là on se dit respect, quoi. Il y a quelque chose de fort. Et moi j'aimerais qu'on ait le même sentiment que le fait de rentrer dans une cathédrale quand on rentre dans une forêt. C'est plein de présences invisibles qui sont là. C'est plein, comme dit mon père, c'est plein de petits cœurs qui battent. Et nous, le fait de s'effacer, on va vivre des moments hyper intenses. Et vous avez raison, la dimension sonore dans ce film, le son est aussi important que les images. Et parfois, il y a même un écran noir pendant une minute. Et je vous invite à, comme si on était à l'affût, sous un sapin, sous un camouflage où on voit que dalle, d'écouter, quoi. D'entendre les pas d'un lynx qui s'approche de nous, qui feule de plus en plus près. En fait, c'est vraiment ce film. J'ai essayé de recréer les moments de manière assez sincère et authentique. Il n'y a pas de triche, c'est que des animaux libres et sauvages. Il n'y a pas de bruitage, c'est que des vrais sons pour vous faire vibrer comme nous, on vibre dehors, quoi.
Ce qu'on comprend aussi, c'est à quel point justement on est peu de choses par rapport à ce monde.
C'est Sénèque, hein, la brièveté de la vie. Ben voilà, on est de passage, quoi. On reste pas longtemps. Et comment on fait ? Enfin voilà, moi je suis assez content de cette nouvelle vague de philosophes qui arrive, que ce soit la pensée d'Escolienne, Morisot, d'Escola, Després. C'est pas nouveau, hein, parce que les peuples premiers étaient comme ça. Mais c'est bien de le rappeler. Que c'est fini cette domination, quoi. On est là, on est tous interdépendants et il n'y a pas une espèce qui est plus importante que l'autre. Et moi, il y a une grande souffrance où je vis en campagne quand je parle d'un animal où tout de suite on va me le décrire en fonction de notre intérêt personnel. C'est quand même fou. Comment est-ce qu'on change de prisme pour se dire, mais non, mais il a aussi sa vie, il a sa petite niche écologique, il a sa place, quoi. Comment est-ce qu'on retrouve une harmonie avec tout ça? Comment est-ce qu'on arrête de déclarer la guerre aux vivants, à la nature? Mais en même temps, j'ai ce film, si vous voulez. Moi, je suis attristé par le fait que tout a été dit. On a dit les plus grands écrivains, que ce soit Rachel Carson, Romain Gary, ou tout dans les années 50. Et puis après, il y en a eu plein, les Dumont. J'ai l'impression que les mots n'ont plus trop de sens. Alors, il faut continuer, évidemment. Mais moi, cette proposition du film, c'est du ressenti. Ressortir de l'imaginaire, et puis de jouer sur une espèce de fibre, des vibrations. Comme je vous parlais au tout début sur la forêt, par rapport aux oiseaux et aux arbres, ce serait pareil, ce serait des vibrations pour que ce soit plus un ressenti et sans obligatoirement poser des mots sur ça. Parce que je pense que tous, malgré nos histoires, on est sensible à cette beauté. On peut être complètement saisi par la beauté d'un paysage, pas obligatoirement d'une bête, mais quand il se passe quelque chose, un désert, des lumières, des volutes qui arrivent.
Les arbres qui fument d'ailleurs.
Les arbres qui fument, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et ça, il faut qu'on prenne le temps de se nourrir de cette poésie, quoi. Franchement.
Ce film est évidemment très poétique. Il y a une chose, par contre, qui frappe tout du long, c'est un regard de crainte. Tous les animaux sont toujours en alerte. Quand on regarde le lynx, le pic noir, ils sont toujours en alerte. C'est tellement, effectivement, c'est ça aussi le monde sauvage. C'est le côté imprévisible aussi. Et c'est ce que vous affrontez vous-même quand vous allez les filmer, essayer de les rencontrer, essayer de les redécouvrir.
Alors oui, il y a une notion d'infini, d'imprévisible. On va partir à l'affût pour une espèce, on va en rencontrer d'autres. C'est comme un énorme livre ouvert et puis il faut qu'on réapprenne à lire ça, quoi. C'est une nouvelle lecture qu'on a un peu perdue. Donc oui, moi, il y a une dimension de revenir un petit peu plus animal, dans le bon sens du terme, à sa juste place. Je trouve ça assez fort, quoi, parce que quand on est souvent sur le terrain, on voit que, même s'ils paraissent aussi attentifs, parce que voilà, et leurs sens sont toujours aux aguets. Mais moi, j'aime beaucoup que ce soit au niveau de leur beauté. Pour moi, ce sont des œuvres d'art. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est excessif. Je trouve que c'est tellement le plumage d'un oiseau, d'une bécasse ou n'importe quoi. C'est tellement beau. Et puis, chacun a sa juste place, sa fonction. Il y a une espèce de, certes, une complexité, mais en même temps, c'est tellement beau de voir cette imbrication dans la forêt, une espèce d'alliance entre chacun, de respect. Il y a de quoi être misanthrope, hein, quand on est longtemps en forêt, quand on voit le mal qu'on fait, pas qu'en forêt, mais ailleurs. Je pense que le fait de regarder un peu les bêtes, les animaux, et prendre le temps, on va ramener un peu plus d'humanité chez nous et de bienveillance, je crois.
On a beaucoup de mal à se parler dans ce monde de brutes, où les guerres ont repris cours. C'est assez terrible. Et dans cette forêt, il y a énormément de langage. Alors vous parlez plein de langage. Vous arrivez à déterminer quel animal est en train de, finalement, de s'exprimer. Ça nous montre à quel point, peu importe le langage de la forêt, y a une communication entre toutes ces espèces. Chacun trouve sa place sans pour autant piétiner l'autre. C'est assez fort, ça nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes.
Hein. Bah, oui, Non, non, mais c'est sûr. Je vous parlais d'un prisme à changer, c'est franchement ça. Moi, je le vois à ma petite échelle autour de ma ferme, hein, où j'ai fait revenir, enfin, j'ai refait des mares, j'ai fait des murs, j'ai replanté des haies, des vergers. C'est fou comme la vie est revenue. Et alors après, c'est pas simple. J'ai des poules aussi qui se font bouffer par le renard. Le loup est pas très loin, j'ai des moutons. Mais c'est comment est-ce qu'on fait pour laisser une part au sauvage, en fait? C'est ça. C'est vraiment revenir à une place qui est moins. C'est un peu ça, cette proposition dans le film. Cette position un peu pyramidale, quoi. Il faut peut-être arrêter, quoi. Il faut revenir à quelque chose de plus horizontal, à mon avis. Comme les peuples premiers, on en parlait, et qu'il y ait une meilleure alliance entre chacun, vraiment. Mais il y a des mouvements qui arrivent, qui naissent, qui sont plutôt encourageants, en tout cas. Et avec de l'espoir, essayer de redonner aussi un statut à une rivière, à une montagne. Il faut qu'on relise les Aldo Leopold, John Muir, ces éco-écrivains américains, où ils donnaient à apprendre à penser comme une montagne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on change ce prisme et comment est-ce qu'on arrive à composer, à habiter ce monde sans tout écraser, quoi, sans tout grignoter.
On comprend que ça passe par l'ego, hein, quand même. Hein,
énormément.
Sans munier. C'est-à-dire que énormément. Votre père, d'ailleurs, quand il raconte l'image du tétra, la première émotion qu'il a eue avec cet animal, il raconte ça à Simon dans cette petite cabane et vous êtes tous les trois réunis. Il parle de cet oiseau fantôme, de ce besoin, lui, de devenir invisible. Il faut quand même mettre l'ego de côté, hein, pour accepter d'être invisible.
Oui, bah, c'est aussi, je pense que c'est une espèce d'aussi d'attention, de fascination par ces bêtes qui sont justement à leur juste place, qui est lui, il a été sidéré par le fait qu'un si gros oiseau vive dans des conditions aussi rudes, parce que c'était une cathédrale de glace, c'était tout givré, il faisait moins 20, et il se disait, mais de quoi il se nourrit, de quoi, comment il vit dans ces tempêtes? C'est fascinant quand même. Donc, et ça nous amène à beaucoup plus d'humilité. Et en effet, cette capacité à s'effacer, à se retirer, à rentrer, c'est franchement ça, parce que moi, ce film, il invite aussi les gens à aller dehors. J'aime assez bien les premiers retours des avant-premières, les gens disent ça. Ah ben, quand je vais en forêt, je regarde plus la forêt de la même manière. Et je dis, ben, ça, c'est tant mieux. Comment est-ce qu'on fait pour aller dehors? Parce que moi, je trouve que le dehors, c'est une réponse au dedans, dans le sens où on se fait du bien à l'intérieur, franchement. Donc, il faut quand même aller dehors. Mais après, on a une responsabilité. Comme tout est en place, tout est en ordre, attention de pas tout foutre en l'air, quoi. Donc, sur la pointe des pieds. Et c'est ce qui m'a inculqué, mon père. Et dans ce film, j'espère que c'est ça. Comment est-ce qu'on y va? Comme un lynx à pas feutrer, tout doucement. On se met dans la peau d'un lynx, on s'efface, on regarde. Et franchement, on va se nourrir de choses, mais tellement belles, accessibles à tous. On s'échappe de la consommation et c'est des choses qui sont là, qui sont gratuites et qui nous font un bien fou sans qu'on s'en rende compte.
Ça s'appelle la reconnexion, hein, tout simplement.
Oui, et j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il y a un côté connexion, progrès et tout, mais on peut dire ça, reconnexion ou sentir vivant parmi les vivants partout. En fait, c'est franchement ça, quoi. Et en plus, hein, je vous assure que moi, je me suis jamais senti si vrai, si ancré quand je me prends des gifles dans la nature, quand je suis dehors et quand je suis en contact avec ces bêtes. On a une sensation d'être vivant et de pas jouer un rôle. Parce que dans notre société, entre nous, quand on est que l'homme et l'homme, même là, entre nous, je pense qu'on joue des rôles. C'est pas qu'on n'est pas franc, mais on n'est peut-être pas nous, quoi. Et ça, ça fait du bien, quoi.
Je voudrais juste qu'on parle de ce que dit votre père à la fin. C'est assez fort. Il dit, pendant que les images de cette sublime forêt défilent, il dit « Toute la nature est un éternel recommencement. On est, on vit, on meurt, on participe à ce mouvement. Nos origines sont là dans l'humus. On est dans ce qui semble. »
On est dans ce qui s'en va. Et ouais, moi, je trouve ça fort. Mais moi, j'aimais bien cette image. Souvent, on trouvait une forêt un peu sale quand il y a des arbres morts, ou alors une forêt qui peut être dangereuse si un arbre nous tombe dessus. Et là, on dit bien que les forêts vivantes, des forêts résistantes, avec beaucoup de diversité, donc c'est ça. Et c'est là où on laisse ces arbres morts, et debout, et sur pied, et au sol. J'aime beaucoup cette image d'un squelette tout moussu d'un arbre au sol, sur lequel vient pousser, vient grandir des petits sapins, quoi. Ils viennent plonger leurs racines dans leur ancêtre pour grandir. Il y a un parallèle, évidemment, entre Simon, mon fils, et son grand-père. C'est quand même assez fort. Et c'est comme un arbre qui, voilà, nurserie, quoi. C'est magnifique. Et ça fait une résilience. J'aime pas ce mot parce qu'on l'emploie un peu trop. Mais ça fait une résistance par rapport à ces prochains défis-là. Réchauffement climatique, parce que nos forêts, que ça soit dans les Vosges ou partout ailleurs en France, vont subir des sécheresses, vont subir des tempêtes, vont subir des arrivées de virus ou de scolytes ou d'autres petites bestioles. Donc plus on est sur des forêts comme le Grand Tétra nous les a montré, des forêts diversifiées avec des essences différentes, d'âges différents, des arbres morts, et plus on va avoir une résistance à ça, à ces grands défis.
Pour terminer, on va rester sur une phrase de votre père qui a une émotion à un moment donné incroyable. Il découvre pour la première fois un lynx à vos côtés. Cette image, elle est incroyable. Il dit qu'il s'est rendu compte que l'insignifiant est le message qu'il faut éviter. invité car porteur d'espérance.
Oui, c'est ça. Il fait un peu, voilà, il se rend compte. Il a quand même passé 50 ans de sa vie à essayer de protéger cet oiseau, essayer de le connaître, le grand tétras qui lui a ouvert les yeux sur la forêt. Et puis, il a eu ce petit troglodyte qui est tout petit. C'est le plus petit de nos oiseaux, quasiment. Il fait 9 grammes, le poids d'une noix, c'est ce qu'il dit. Et il chantait devant lui. Et il s'est dit, mais oui, comme s'il lui parlait en disant, ben voilà, il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Lui aussi, il est aussi important. Et écoutons aussi les messages des timides, des insignifiants, des discrets.
Merci beaucoup, Vincent Munier, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre film documentaire, Le Chant des Forêts, est un bijou. C'est un élan d'espoir qui balaie d'un revers de main le désespoir et la tristesse de l'évolution désastreuse des espèces animales. C'est une belle invitation de connexion, même si vous n'aimez pas ce terme, peut-être pour nous donner envie davantage de prendre soin de ce qui nous entoure. Merci beaucoup.
Merci Elodie.